explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
Ce sont de vastes zones occupées par la taïga, la toundra ou les glaces de l'Arctique. Des régions faiblement peuplées car pour les humains, elles ne sont pas franchement accueillantes. Mais ces territoires du Grand Nord et leur climat qui nous semble si extrême sont des petits paradis pour toute une faune sauvage qui s'y est parfaitement adaptée. Le documentariste et photographe Rémi Marion s'est pris de passion pour ces terres septentrionales et les animaux qui y vivent. Depuis plus de 30 ans, il s'y rend régulièrement pour filmer et photographier phoques, loups blancs, renards polaires, lièvres arctiques et autres chouettes harfangs. Dans le vent glacé du Grand Nord canadien, il a observé des bœufs musqués, animaux étonnants aux allures préhistoriques. Il est allé jusque sur la banquise pour filmer des ours polaires dont il est devenu un spécialiste. Cet après-midi, du Canada à la Sibérie, en passant par le Groenland, Rémi Marion nous emmène sur la piste des animaux sauvages des contrées boréales. Et en fin d'émission, nous irons en Corse marcher sur un chemin de grande randonnée devenu mythique, le GR20. Nous aurons pour guide l'écrivain et photographe Fernando Ferreira. Voilà pour le programme de cette émission, réalisée par Hélène Kouyoumdjian et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Nicolas Delmas. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est quand même des gros bestiaux là. Des belles bêtes. Hein. Si tu les regardes un peu aux jumelles de près. Hein. Je sais pas pourquoi ça me fascine autant cet animal. Il y a un côté primitif, tout hein, complètement. On est dans une autre époque.
Photographe animalier Vincent Munier en train d'observer un groupe de bœufs musqués dans le Grand Nord de la Norvège. Bonjour Rémi Marion.
Bonjour Daniel.
Alors vous les avez vous aussi observés à de nombreuses reprises, ces bœufs musqués. Vous leur avez consacré votre dernier ouvrage, Ovibos, le survivant de l'Arctique, aux éditions Actes Sud. Ovibos, c'est le nom latin de cet animal. Comme Vincent Munier, qui signe d'ailleurs la préface de votre livre, Rémi Marion, vous semblez fasciné par ces animaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont de si fascinant, ces bœufs musqués ?
Alors en fait, ce sont des animaux vraiment assez étranges, déjà par leur allure, déjà parce que quand on les voit de loin, on voit une espèce de masse sombre dans cette toundra où il y a peu de choses, des buissons parfois. Et donc on voit cette masse de chair, de poils, perdue au milieu de nulle part. Et c'est vraiment ce qui choque en premier. Hein. La première vision qu'on a pu avoir, nous, sur l'île de l'Esmer, c'était cette espèce d'animal préhistorique qui avançait vers nous, comme le dit Vincent très bien. Quoi. Et évidemment, ils se sont adaptés aux régions les plus difficiles hein, de notre planète, en particulier à l'extrême nord du Canada, sur l'Esmer, aussi sur l'est du Groenland, où on peut encore les observer. Ce sont les derniers groupes sauvages. Après, ils ont été réintroduits ailleurs parce qu'ils ont été extrêmement détruits. Mais c'est vrai que ce sont des animaux qui choquent aussi par leur côté paisible aussi, dans ces régions-là, et qui vivent en groupes familiaux. Alors, paisible, pas toujours, parce qu'en période de reproduction, ça cartonne un peu, mais sinon, c'est vrai que c'est très paisible. On voit les veaux près de leur mère et tout ça se passe très bien. Et en plus, on peut, en général, les approcher très très près, comme s'il y avait une espèce de connivence entre nous, les observateurs.
C'est-à-dire qu'ils vous voient, ils vous sentent, ils ne fuient pas, ils restent impassible devant vos objectifs de photographe.
Oui, il faut y aller vraiment avec beaucoup de précautions, pas bouger, être avec bon vent quand même, hein, parce qu'ils ont des prédateurs qui sont les loups en particulier. Mais globalement, si on prend toutes ces précautions, qu'on y va tranquillement, vraiment avec beaucoup d'humilité, eh bien on peut les approcher. Et puis aussi, on peut rester longtemps avec eux quand on est bien positionné. Et ça, c'est magnifique parce que on peut voir leur comportement entre les individus, entre les femelles avec les jeunes. Et ça, c'est vraiment passionnant. Quoi.
Ouais. Et alors, ces animaux, hein, vous le dites, on a l'impression que ce sont les derniers survivants d'une époque complètement révolue, celle où vivaient les aurochs, les rhinocéros laineux, les mammouths, les ours des cavernes. C'est un peu le rescapé d'une époque lointaine.
Oui, il n'est pas tout seul hein, pour ça, mais peut-être aussi c'est son aspect qui nous fait penser oui. justement aux mammouths et aux rhinocéros laineux. Il y avait des loups aussi, il y a déjà au moment des rhinocéros laineux et des mammouths. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment le bœuf musqué a pu se déplacer. Il y a 400 000 ans, il vivait dans les Pyrénées, hein, il vivait c'est dans ça. Le sud de la France.
On en trouvait sous nos latitudes, mais parce que le climat a changé.
C'est ça. Donc il faisait très froid, les glaciers descendaient très très au sud. Puis en fait, avec le retrait des glaciers, ils sont allés de plus en plus vers le nord. Ouais. Et puis évidemment, avec le réchauffement climatique, maintenant, on peut se demander jusqu'où ils vont aller, parce qu'après, il n'y a plus grand-chose. Quoi.
Ouais. Alors, on le décrit quand même avec ces espèces de cornes qui démarrent en haut de la tête et qui tombent comme une sorte de chevelure et qui remontent. Et puis, effectivement, très très poilus, on les nomme les bœufs musqués, mais ce ne sont pas du tout des...
Pas du tout. Et c'est pour ça qu'on les appelle beaucoup ovibos, parce que c'est plus joli déjà. Ouais. Et puis bœuf musqué, c'est pas très sympathique. Donc en fait, ce sont pas du tout des bœufs, ce sont plutôt des chèvres. Hein. Ils sont très proches de la chèvre. D'ailleurs, ce sont des animaux qui peuvent grimper très facilement sur des pentes assez escarpées, parce qu'ils ont des sabots qui peuvent être mobiles. Et puis ils ont aussi un poil très très épais, donc qui ressemble à de la laine. Et d'ailleurs, il y a des endroits dans l'Arctique où on utilise le poil de bœuf musqué pour en faire une laine extraordinaire, extrêmement chaude.
Et pourquoi musqué alors? Ce ne sont pas des bœufs, sont-ils musqués?
Non plus, ils n'ont pas de glandes à musc, comme on pourrait l'entendre. Ils ont, les mâles en période de reproduction, une odeur assez assez forte et se retrouve dans la viande d'ailleurs. Mais ils n'ont pas de glandes à musc, donc ils ne sont pas réellement musqués.
Oui, c'est ça. Donc on fait mieux de dire ovibos, au moins on se plante moins. D'ailleurs, les Inuits les appellent le grand barbu. C'est vrai qu'il y a énormément de poils sur cet animal.
Oui, c'est ça. Et puis les grands mâles aussi ont une espèce de grande barbe sous le menton. Là, qui descend presque jusqu'au sol, ça fait 60 cm de long les poils.
Alors, votre livre Ovibos, les derniers survivants de l'Arctique, est un dialogue posthume entre vous, Rémi Marion, et puis un scientifique, anthropologue, Robert Gessin. Qui était-il, ce scientifique?
Donc, Robert Gessin, il a commencé sa carrière dans l'Arctique, donc aux côtés de Paul-Émile Victor, donc en 1934. Donc, ils ont fait une expédition qui avait été déposée au Groenland par Jean-Baptiste Charcot, au bord du Pourquoi Pas, donc sur la côte est du Groenland. Et donc, c'est ce qui vraiment l'a fait découvrir, qui lui a fait découvrir ces régions-là. Il a eu une grande carrière d'anthropologue, hein, en particulier sur la côte est du Groenland, parce qu'il a continué, lui, bien au-delà de Paul-Émile Victor, d'ailleurs, à étudier ces populations.
Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter sa voix après sa première expédition au Groenland à Amasalik en 1934 avec Paul-Émile Victor. Robert Gessin a vu évoluer la vie des Inuits au contact des Occidentaux. Il le racontait en 1971 sur France Culture.
En 1934, les Esquimaux d'Amasalik vivaient encore dans des grandes maisons patriarcales comme au temps de la préhistoire. Et nous avons vécu, Paul et moi, très souvent dans de grandes maisons au milieu d'eux. Ils sont maintenant astreints, ou ils tendent à être astreints comme nous à l'heure, au pendule. Alors qu'autrefois, ils vivaient en accord avec l'harmonie du monde et les rythmes migratoires des animaux. Et c'était leur joie de chasser chaque animal en son temps. Car ils vivaient dans un milieu où la nourriture était abondante. Et quand elle était abondante, c'était une population qui avait beaucoup de loisirs, qu'ils occupaient à de la littérature, à des chants comiques et théâtraux, à des danses, qu'ils occupaient à orner leurs armes et leurs vêtements. Ils avaient des armes et des vêtements magnifiques. Alors que maintenant, pour leur malheur, ce qui a du prix pour l'Occident, c'est les peaux de phoque dont ils faisaient justement leurs vêtements. Les peaux de phoque, ils les vendent, avec quoi ils ont de l'argent, et avec l'argent, ils achètent des mauvais vêtements et de la mauvaise nourriture occidentale.
L'anthropologue Robert Gessin en 1971, il est décédé en 1986. Rémi Marion, en un siècle, le rapport que les Inuits entretenaient avec cette faune de l'Arctique dont on va parler pendant cette émission, ce rapport a complètement changé?
Alors complètement non, je pense pas, parce que ça reste aussi un ancrage culturel extrêmement important, la chasse en particulier, et on le voit encore maintenant où ils essayent de former les jeunes à la chasse. Il faut savoir aussi que, par exemple, comme le dit Robert Gessin, il y a eu une période où ils vendaient les peaux de phoque aux Occidentaux, donc ce qui leur donnait de l'argent. Le problème, c'est que dans les années 80, eh bien, il y a eu des grosses campagnes contre la chasse aux phoques, qui ont eu des dégâts collatéraux du point de vue de la culture inuit complètement énorme. Et donc, ce qui fait qu'ils ont, ils avaient plus de ressources liées à la vente de peaux de phoque. Et donc, ils avaient plus non plus intérêt à aller chasser des phoques. Et donc, là, culturellement, ça a été un problème. Mmh. Et maintenant, dans nombreuses régions, on voit que l'apprentissage de la chasse est de plus en plus importante comme un bien culturel extrêmement nécessaire.
Et si Robert Gessin, d'ailleurs, s'est intéressé à cet animal, le bœuf musqué, alors qu'il était, lui, anthropologue, c'est parce que, par le passé, la présence des bœufs musqués a été déterminante pour la survie et l'installation des Inuits, c'est-à-dire c'est à ce point lié au fait que l'homme a pu vivre dans ces contrées.
Oui, tout à fait, les ressources animales dans ces régions-là étaient absolument nécessaires, et puis comme le dit Robert Gessin, aussi lié au rythme des saisons. Alors l'avantage du bœuf musqué, comparé par exemple au caribou, qui est une espèce extrêmement importante aussi dans certaines régions du Canada, le bœuf musqué est plutôt sédentaire. Donc ça veut dire que si le cheptel est bien géré, et je connais entre autres une île au nord du Labrador où les Inuits vont le chasser mais continuent à gérer la population de bœufs musqués, eh bien ils peuvent rester à vivre grâce à cette population. C'est vraiment fondamental pour leur ancrage sur le territoire.
Et on l'entendait aussi, Robert Gessin, dire que les animaux à chasser étaient abondants pour les Inuits pendant longtemps. C'est pas forcément la vision que l'on se fait de ces régions arctiques. Il y a vraiment beaucoup de gros animaux sauvages dans les contrées boréales.
Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a des zones où il y en a relativement beaucoup. Oui, comme les caribous, alors malheureusement une population qui est en déclin. Les bœufs musqués, il y en avait pas mal, il y avait beaucoup de phoques aussi, énormément de phoques, beaucoup de baleines aussi, donc il y avait beaucoup de gibier, mais aussi des populations inuites qui sont toujours quelques dizaines de milliers d'individus sur un territoire gigantesque, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de destruction de gibier, entre autres avec l'arrivée des armes à feu, et ça a fait basculer les populations inuites dans cette obligation de recevoir des aides un petit peu partout, et c'est très très compliqué pour eux, et on ne parle pas assez d'eux d'ailleurs pour le réchauffement climatique, parce qu'ils le prennent vraiment en pleine face.
Alors vous, le photographe, ces animaux vous intéressent pas pour la chasse bien sûr, mais pour les prendre en photo. Qu'est-ce qu'on trouve comme faune arctique et subarctique? Quel type d'animaux peut-on trouver dans ces régions?
Alors, si on reste dans l'Arctique, c'est-à-dire au-delà de la limite des arbres, donc dans cette toundra et aussi sur le bord de mer, bon, évidemment, on voit l'ours polaire dans certaines zones, ouais. Pas partout, mais il y a des zones où il est relativement abondant.
Alors, on va y revenir dans la suite de cette émission, parce que vous êtes un spécialiste de l'ours polaire.
Ouais, j'essaye. Il y a beaucoup de phoques aussi, beaucoup de baleines aussi, et peut-être de plus en plus de baleines, et ça, c'est merveilleux. D'autres mammifères marins comme les belugas, les narvals aussi, que l'on trouve, mais de façon très, très saisonnière. Et dans certains endroits particuliers. À terre, bon, il y a beaucoup de caribous, mais malheureusement de moins en moins, parce qu'ils subissent le réchauffement climatique aussi de façon très très importante. Le renard polaire, qui est une espèce que j'aime beaucoup.
Ouais. Un animal renard très... tout blanc. Hein, renard.
Alors tout blanc l'hiver et marron roux l'été, donc ouais. Qui change de couleur, un peu comme le lagopède aussi, la perdrix des neiges. Donc une espèce vraiment intéressante, parce que lui, il est actif toute l'année. Et donc c'est toujours cette espèce de lutin qui court partout dans la toundra. Et c'est vraiment un animal sympathique.
Tous ces animaux, hein, le loup blanc, la chouette arfang que vous avez pris en photo, ils ont su, alors c'est pas vraiment qu'ils ont su, mais l'évolution les a dotés de caractères qui font qu'ils sont parfaitement dans leur élément, là où pour nous les conditions sont extrêmes.
Oui, alors effectivement, hein, alors le loup est intéressant parce qu'il a pu s'adapter aussi bien depuis les régions désertiques au sud, par exemple on va dire au Mexique, par exemple il y a des loups, jusqu'au Grand Nord. Donc c'est la même espèce, mais évidemment il y a des capacités d'adaptation pour ces régions aussi, avec un mode d'organisation d'émeutes aussi un peu différentes, des morphologies aussi. Le loup arctique est un gros animal, hein, une grosse bête, donc qui vit en petits groupes comparé par exemple aux loups qui peuvent vivre en Europe, quoi. Donc il y a aussi de l'adaptation morphologique, mais aussi du point de vue social au sein même de l'espèce. Quoi.
Alors parmi les animaux de la faune arctique, on le disait, il en est un qui vous passionne tout particulièrement, c'est l'ours polaire. Nous allons prudemment partir à sa rencontre avec vous dans un instant. Rémi Marion nous emmène le temps d'un bivouac, observer la faune sauvage du Grand Nord cet après-midi sur France Inter.
Tree of all things we
C'était Rover qui chantait To This Tree sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Là, on est en train, avec le bateau, d'avancer sur la mer à vitesse très réduite.
On va peut-être taper le bord de celui-là. Voilà, on va taper dans quelques secondes, attention. Voilà, un choc et puis on sent la vibration dans la coque qui rebondit un petit peu.
Oui, on est obligé de se faire notre route au milieu de ce dédale de glace. Donc c'est de la glace d'eau douce, donc les glaciers donc assez durs, donc il faut vraiment négocier l'approche. Donc voilà, on va taper un gros là. Voilà. Attention, ça va bouger. Et ça annonce vraiment des difficultés de navigation, mais c'est aussi le but du voyage, c'est de l'exploration un petit peu, c'est de la découverte. Donc là, il n'y a aucune carte qui nous donne les profondeurs. Enfin, même après 20 ans de glace, moi je suis toujours aussi émerveillé.
Notre invité, documentariste, écrivain et photographe Rémi Marion sur la côte est du Groenland en 2009. Vous vous émerveillez, hein, Rémi, devant ces paysages de glace dont vous ne vous lassiez pas après 20 ans d'expédition. Eh bien, la passion est toujours intacte après maintenant plus de 30 ans d'expédition dans ces régions du Grand Nord. Comment vous est venue cette passion pour les régions polaires ?
En tout petit, je pense, hein, moi je suis issu d'un merveilleux port de pêche qui s'appelle Honfleur, avec un papa qui était marin-pêcheur, et donc qui partait à la pêche toutes les nuits, il me ramenait des animaux un peu étranges parfois. Donc ça, je pense que ça a été vraiment le point de départ.
Hein. Le goût du voyage vient de là, ce père qui partait pêcher au loin.
Voilà, je savais pas trop évidemment où il allait pas si loin que ça, parce que c'était en baie de Seine, mais c'était aussi, la baie de Seine est extrêmement dangereuse et piégeuse, ouais. donc oui, pour moi c'était important, et puis du coup je me suis mis très très tôt à lire les bouquins de Paul-Émile Victor et tous ses récits, et c'est vrai que... pour moi, c'était un peu comme une évidence que d'aller dans ces régions-là, oui.
Alors, lorsque vous faites votre premier voyage dans les régions polaires du Grand Nord, on est au milieu des années 80. À ce moment-là, vous travaillez dans une société d'informatique. Mmh. Et puis le déclic va se faire. Petit à petit, vous allez mordre à l'hameçon de la glace, y retourner sans cesse et quitter en fait votre premier métier pour devenir entièrement spécialiste de ces régions du Grand Nord, documentariste, photographe.
Oui, c'est vrai. Alors moi, la grande chance aussi, c'est de l'avoir partagé avec mon épouse, avec Catherine. Et sans elle, ça n'aurait pas été faisable parce que c'était un risque. Moi, j'avais une place plutôt confortable, on va dire. Ouais. Et de prendre ce risque et de partir et de consacrer sa vie à ces régions, à y aller, y retourner, à écrire des livres et maintenant faire des films.
Ouais, ouais, alors, écrire des livres, le premier que vous avez écrit était sur les phoques. Je crois que c'est les phoques qui vous ont happé en premier parmi les animaux de la banquise.
Oui, c'est ça. En fait, c'était un guide que je ne trouvais pas, qui n'existait pas. Et donc, du coup, je me suis dit bêtement, il va falloir l'écrire. Et à l'époque, j'avais un ami qui travaillait chez Delachaux et Nestlé qui a bien voulu prendre le projet. Et donc, on a sorti le guide des phoques et otaries en 93.
Ouais. Et puis, alors, vous y êtes retourné pour à chaque fois regarder, observer des animaux différents. Parfois, ce sont les animaux qui viennent à vous, je crois, dans le nord du Canada, une nuit, après une nuit, vous vous réveillez au pied des sacs de couchage, vous tombez nez à nez avec des loups blancs.
Oui, ça c'était vraiment parmi les plus belles observations. On avait monté une petite expédition à l'extrême nord du Canada, à 800 km du pôle. Et donc pour l'observation des loups blancs, on a eu beaucoup de chance. On a fait 16 heures d'observation de loups, ce qui est énorme. Et une nuit où il faisait grand jour, parce qu'on était en plein mois de juillet.
Et oui.
Et là, on a été réveillés avec Catherine par un loup blanc qui était au bout de notre sac de couchage. Ouais.
Mais ça reste une belle expérience, ça, quand en pleine nuit, on se retrouve face à face avec un loup blanc. Donc vous nous avez dit qu'ils étaient plutôt plus gros que les loups de nos régions.
Oui, mais les loups sont absolument pas dangereux, donc j'ai beaucoup moins peur d'un loup dans le Grand Nord que d'un chasseur en forêt de Fontainebleau, vous voyez.
Oui, vous habitez pas loin de la forêt de Fontainebleau. Ces loups blancs, vous nous avez dit dans la première partie, ils ont une vie sociale différente de nos loups actuels. Ce n'est pas uniquement des adaptations physiologiques, mais aussi des adaptations dans le mode de vie. Qu'est-ce qui change dans l'organisation sociale des loups blancs?
Alors déjà, comme les ressources alimentaires sont pas non plus gigantesques, les meutes sont quelques individus, 5-6 individus, qui vont parcourir des milliers de kilomètres pour se nourrir. Donc comme ils sont peu nombreux aussi, la chasse est pas toujours facile, surtout face aux bœufs musqués qui, eux, ouais, se sont organisés pour les combattre, enfin au moins se défendre.
Ils se regroupent, les bœufs musqués,
voilà,
ensemble, côte à côte, ils font bloc et sont moins attaquables par ces loups.
C'est ça, donc il y a les grands mâles qui se mettent devant, les petits sont bien protégés au milieu du groupe. Alors évidemment, pour les loups, ça marchait bien. Quand les armes à feu sont arrivées, c'était moins bien parce qu'évidemment, les chasseurs n'avaient plus qu'à tirer dans le tas, quoi.
Alors, il y a un autre animal pour lequel vous vous êtes pris, mais alors vraiment de passion, un animal emblématique de la banquise arctique, c'est l'ours polaire. Vous l'avez filmé, photographié à de très nombreuses reprises, si bien que croiser sa route est devenu pour vous une chose assez courante. On s'en rend compte en constatant le calme dont vous faites preuve à l'approche d'un ours blanc dans ce reportage d'interception sur France Inter en 2003. Vous êtes dans une voiture dans le nord du Canada, dans la baie d'Hudson.
Alors ça y est, là, on va essayer de pas faire trop de bruit. Parce qu'on a un ours qui se rapproche tout près du véhicule. Il y a pas mal de neige, parce que depuis ce matin, il ne s'arrête pas de neiger. Mais bon, il avance toujours avec son allure assez rapide, le museau au vent. Pour bien nous... Il est à 2 mètres du véhicule, mais maintenant, il est même sous nos pieds. Salut, petit père. On peut bien se rendre compte, quand on est à cette distance-là, de l'épaisseur du poil. Il est à cette saison, l'ours polaire est plutôt jaunâtre, hein, parce qu'en fait il a de la graisse qui est dans le poil, qui s'est oxydée, et qui lui donne cette espèce de couleur un peu beurre, rance. Donc on le distingue quand même relativement bien sur la neige assez épaisse, quoi. Ce gris plombé du ciel, la neige un petit peu partout, c'est assez monochrome, qui résume bien en fait les ambiances, oui, arctiques, comme on peut avoir ici à Churchill sur la baie d'Hudson.
On ne vous sent pas du tout inquiet, Rémi Marion, à l'approche de cet ours blanc? C'est la
routine ?
Non,
parce que ce sont des véhicules qui sont spécifiquement faits pour l'observation. Il y a eu des périodes un peu plus compliquées avec des ours, parce que, évidemment, moi j'ai passé 23 automnes à Churchill pour l'observation des ours, donc dans des véhicules qui sont faits pour ça, mais j'ai aussi pour faire d'autres images, entre autres pour faire un film que j'avais fait pour Arte. On est allé au nord de l'Alaska filmer des ours polaires la nuit. Et là, c'était tout autre chose comme ambiance. Là, c'était, ouais, un peu plus tendu, on va dire.
Alors vous vous intéressez aux ours polaires et aux ours de façon générale, mais l'ours polaire est un animal particulièrement dont il faut se méfier, hein, quand même.
C'est un animal particulièrement intelligent, donc qui est un chasseur, donc forcément il va mettre en place des stratégies pour essayer d'avoir sa proie, mais aussi c'est un animal extrêmement pragmatique. Mmh. Si on lui laisse pas à penser que vous êtes une proie potentielle, ben il va passer son chemin.
Oui, ça marche vraiment, ça, quand on est quand on le voit s'approcher, on se dit qu'il
suffit. Oui, alors c'est ça, on sait pas comment il va réagir. Moi j'ai vu au Labrador une fois, on était avec un jeune ours qui était extrêmement curieux, alors on savait pas si c'était uniquement de la curiosité ou s'il voulait goûter, quoi. Et en plus, on était dans une zone où on pouvait pas être armé, donc c'était un petit peu délicat. Faut utiliser des pétards, des fusées éclairantes. Mais voilà, on sait jamais, on connaît pas non plus son passif éventuellement avec les hommes. Ouais. Donc il faut se méfier. Et puis il y a des animaux dont il faut évidemment éviter de s'approcher, ce sont les grands mâles qui eux rien ne peut les arrêter. Donc là faut rester à distance obligatoirement.
Ce sont de grands carnassiers. Ce sont autant l'ours brun est omnivore, L'ours polaire mange exclusivement de la viande.
Quasiment, oui, c'est 98% ou 95% du phoque. Donc forcément, comme c'est un chasseur avec une espèce qui n'est pas toujours très très facile à attraper, bah, il lui faut une stratégie, des stratégies qu'il est sans cesse en train de remettre en cause. Donc ça nécessite aussi une certaine intelligence, oui, même très très importante. Ouais.
Lorsque vous avez tourné tous ces documentaires sur l'ours polaire, c'est combien de temps de tournage, d'approche pour réussir à faire ce type de documentaire? Est-ce que l'on part avec tout un scénario, des scènes précises que l'on veut capter? Est-ce qu'on se laisse complètement guider par ce que l'on voit?
Alors en fait, moi j'ai fait des documentaires un peu particuliers parce que comme j'ai eu la chance de ramasser beaucoup d'images sur de très nombreux voyages, parce que c'est très difficile de se dire bah tiens, moi je vais les faire filmer tel comportement d'ours polaire. Oui. On peut très bien y passer 15 jours, 3 semaines et rien ramener, et les budgets étant ce qu'ils sont maintenant, on peut plus vraiment se le permettre. Donc moi j'ai eu la chance d'y aller très très souvent, de ramasser beaucoup d'images, beaucoup de comportements différents, et donc quand on a fait les métamorphoses de l'ours polaire en particulier, eh bien il nous manquait, je dirais, un comportement extrêmement rare, c'était la rencontre entre un ours polaire et un grizzly. Et donc là, je dirais qu'on a mis le paquet sur là-dessus et c'était assez extraordinaire.
Vous nous direz tout à l'heure, on ne va pas le dire tout de suite, on en parlera dans la fin de cette émission. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un ours polaire rencontre un grizzly? Une dernière chose, lorsque vous attendez longtemps un comportement d'un animal ou tout juste de voir l'ours polaire sortir, c'est arrivé, notamment, au moment où l'ours apparaît, il se passe autre chose à filmer. Là, on ne sait plus où donner de la tête. Et je pense à une scène très particulière où vous voyez au loin 4 soleils se former, un phénomène lumineux très particulier. Et là, vous dilemme, est-ce que je filme ça ou est-ce que je filme l'ours polaire?
Oui, ça c'est vrai que c'est un dilemme, mais je dirais que c'était un problème de riche. Quand on a trop de choses à filmer, c'est merveilleux. Alors on peut passer des jours sans rien voir du tout. Oui. Et c'est vrai que bon, bah nous on est plutôt tenté que de se dire qu'un comportement animalier, on aura beaucoup plus de mal à le filmer. Et d'ailleurs, moi j'ai la chance qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent parce qu'ils savent que moi j'ai une bibliothèque importante d'images, quoi. Et donc je vais me focaliser plutôt sur le comportement animal. Oui.
D'accord. C'était quoi le phénomène lumineux avec ces 4 soleils?
C'est une parélie, hein. Donc quand il y a une grosse quantité de cristaux de glace à un certain degré au-dessus de l'horizon, eh bien il y a je dirais un problème de réfraction, de dispersion de la lumière qui fait que on se retrouve avec plusieurs soleils, avec 4 soleils, donc ouais. C'est absolument sublime, et c'est typique soit des zones en très haute altitude de montagne, soit dans les hautes latitudes.
Et donc ce jour-là, vous n'avez pas filmé les 4 soleils, vous avez filmé l'ours?
Ah oui, je confirme.
On n'a pas eu ce superbe spectacle. Et vous avez certainement dû aussi dans les phénomènes lumineux dû assister à des aurores polaires, des aurores boréales.
Boréales, oui, très très nombreuses fois, hein. Entre autres à Churchill, parce que c'est une zone tout à fait bonne pour ça, intéressante pour ça. Donc c'est toujours, moi ça reste toujours un émerveillement. Moi j'ai beau en avoir vu des centaines, c'est toujours merveilleux de voir ce ciel s'agiter, ces traînées vertes, parfois rosées, c'est vraiment sublime. Ouais.
On poursuit notre voyage dans le Grand Nord, sous les aurores boréales, avec vous, Rémi Marion. Vous qui avez passé beaucoup de temps à observer la faune sauvage, vous nous direz ce qui se passe lorsqu'un ours polaire rencontre un grizzly et qu'il décide de s'accoupler. La nature réserve bien des surprises. Bel après-midi à l'écoute du Temps d'un Bivouac sur France Inter. It's all there. Coming in like an arrow, coming up over the sea, it's all there.
it back to nothing. Every little thing I know. Every little thing I have. See the love by the eye. See with tired eyes. So I shutting up for the winter. Let's slow every little thing I love. Every little thing I have. See the love by the eye. See you with tired eyes. Every little thing I have.
The Magnetic North qui chantait Bay of Scale sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Bon, ce que je fais présentement, c'est que je siffle pour prévenir l'ours en quelque sorte que l'on vient. Je pense qu'un bon nombre d'ours ne sont pas agressifs du tout, mais ils n'aiment pas être surpris. Si on siffle, puis s'ils savent que nous, on s'en vient, ils vont fort probablement s'écarter. Si on siffle pas, puis qu'on les surprend, à ce moment-là, ils peuvent devenir très agressifs. Bien, il y a une chose sur laquelle j'insiste présentement. Si on voit un ours, on va pas voir l'ours. Si on voit un ours, on s'arrête, puis on recule tranquillement pour appliquer à l'automobile. C'est tout ce que l'on fait.
Raymond Girardin, ranger pour les parcs nationaux canadiens. Nous étions près de la ville de Churchill. Nous y retournions dans la baie d'Hudson. Les ours blancs semblent presque trop présents, envahissants pour les habitants de la ville de Churchill. Rémi Marion.
Oui, alors les habitants de la ville de Churchill, ils savent qu'il y a des ours. Hein, donc ils leur laissent, je dirais, un timing dans la nuit, entre minuit et 6 heures du matin. On va dire que les ours peuvent traverser la ville. Et quand il y a des accidents, souvent, eh bien, ce sont des gens qui ne sont pas de la ville et qui vont sortir du bar un petit peu éméchés tardivement. Et là, s'ils croisent un ours, ça peut être très, très embêtant. Quoi. Ouais. Donc, les derniers accidents qui ont lieu, c'était ça. Les gens de Churchill ont l'habitude. Hein. Il y a 800 habitants à Churchill et 300 ours polaires autour du village.
Ouais.
Donc, c'est énorme. Et en plus, ils sont sur la voie migratoire des ours. Donc, bah voilà.
Mais des ours rentrent dans les maisons parfois, cassent des murs.
Ça peut arriver. Moi, j'en ai vu, on en a beaucoup entendu. Vous faites des muffins et vous vous retrouvez avec un ours dans la cuisine,
ouais,
quoi.
Ça fait. Donc, c'est embêtant, et puis en plus, quoi. Comme ce sont des carnivores, ils préféreront pas les muffins. A priori, c'est plutôt vous qui risquez de les intéresser. Alors, ça, c'est un peu paradoxal parce qu'on a l'image de cet ours polaire emblématique qui est en voie de disparition. En tout cas, c'est l'image que l'on s'en fait. Et puis, en certains points du globe, il semble proliférer, en tout cas dans cette baie d'Hudson au Canada.
Non, alors je pense qu'il y a aussi beaucoup de désinformations là-dessus. L'ours est menacé, ça c'est évident, mais il n'est pas le seul à être menacé. Il y a des espèces qui sont beaucoup plus menacées que l'ours polaire. Il n'est pas du tout en voie de disparition, mais il est vrai qu'il y a des endroits, et il faut regarder l'Arctique de façon très très large, par exemple au nord de la mer de Beaufort, en Alaska, au nord de l'Alaska. Là, l'espèce est peut-être beaucoup plus menacée qu'ailleurs, exactement aussi comme au Svalbard, au nord de l'Europe, alors qu'au nord du Canada, je dirais que les populations vont plutôt bien. Donc voilà, il faut un petit peu maîtriser tout ça.
Et les bœufs musqués dont on parlait en début d'émission, eux, sont-ils menacés? Alors à chaque fois, c'est surtout le changement climatique, mais aussi d'autres pressions qui peuvent peser sur ces espèces.
Oui, alors c'est ça, les bœufs musqués ont failli disparaître, eux, de la main de l'homme, ont failli être complètement exterminés à coups de fusil. Jusqu'aux années 30, on va dire. Et après, heureusement, on s'est aperçu qu'il fallait les conserver. Et du coup, il y a eu de la réintroduction dans différents endroits. La population est plutôt importante, 150 000 individus, mais fragilisée justement par le réchauffement climatique, mais pas que, parce qu'il y a aussi des problèmes d'une génétique qui est relativement qui n'a pas assez de diversité, et donc ce qui fait que si dans un groupe peut y arriver une maladie, un parasite, quelque chose comme ça, et bien la population est fragilisée assez vite. Donc ça, c'est aussi un autre problème de réintroduire des animaux, mais à partir d'une petite population résiduelle,
Intéressons-nous aussi à la flore du Grand Nord après la faune. On trouve aussi des végétaux et même des arbres qui se sont adaptés à ces conditions de froid. Exemple ici sur la côte est du Groenland.
Ici, ce n'est que de la roche, de la tourbe. Voilà, donc là, on a un aspect caractéristique des zones gelées en permanence, ce qu'on appelle le pergélisol. Et vous avez des cailloux et des zones de tourbière avec des plantes qui résistent au gel. Seules quelques plantes très résistantes au froid peuvent s'adapter, et entre autres comme des arbres, des saules. Oui, deux espèces de saules et une espèce de bouleau sont présentes quasiment sous nos pieds. On marche sur la forêt.
C'est quoi? C'est une espèce de plante mais qui part de manière horizontale, qui ne monte pas et qui...
Là, on voit le tronc très noueux, et de ce tronc, gros comme la main, vous avez les branches qui partent à l'horizontale de chaque côté. Donc l'arbre fait 1 mètre de large, mais 10 cm de haut.
Et ça résiste à des moins 30, moins 40 degrés?
Ça résiste au gel. Une fois qu'on est passé en stade de gel, la plante est en repos complet tout l'hiver et elle se réveille au dégel.
Gérard Bodineau, guide spécialiste de l'Arctique, au micro de Stéphane Combe. Rémi Marion, jusqu'à quelle latitude trouve-t-on des arbres lorsque l'on monte vers le Grand Nord?
Alors, on peut trouver des... Alors, ça dépend des zones. Par exemple, si vous allez au Svalbard, entre autres sur la côte ouest du Svalbard, où là, vous avez des résurgences de climat plutôt doux, on va dire, pour la région. Donc, très, très au nord, vous pouvez trouver des saules et des bouleaux nains, comme le disait notre ami Bodineau, là. Ça va pas dépendre que de la latitude, parce qu'il y a des régions à latitude égale qui peuvent être extrêmement froides. Mais on peut les trouver très, très au nord. Quand on arrive à Ellesmere, donc la zone où il y a les loups blancs, là, il y a très, très peu de végétation, qui est en fond de vallée, où il y a encore un peu de filet d'eau l'été, mais c'est vrai que là, la végétation devient extrêmement rare.
Donc on peut imaginer, là encore, qu'avec le changement climatique, le réchauffement, cette limite des arbres va évoluer, va changer dans les années à venir?
Alors on le voit déjà, la limite des arbres avance de plus en plus vers le nord, ça se voit très nettement, c'est une limite, je dirais, de entre l'Arctique et le Subarctique, qui est une limite visible. Le problème, c'est qu'elle va être aussi limitée par l'apport d'énergie, parce que la température a beau changer, mais l'apport d'énergie pendant l'hiver reste toujours sensiblement le même.
Quand il n'y a pas de soleil,
il n'y a pas d'apport d'énergie.
Ou la lumière rasante également.
Ça changera pas, on va dire.
Oui. Donc les paramètres changent, mais il y a plusieurs paramètres à prendre.
Il y a des facteurs limitants quand même.
Alors vous avez assisté, et peut-être que ces rencontres auront lieu de plus en plus fréquemment maintenant que le climat se réchauffe. Vous avez assisté à des rencontres entre grizzly et ours polaire, on le disait. qu'est-ce qui se passe lorsqu'un grizzly, donc c'est une sous-espèce d'ours brun, hein, le grizzly, rencontre un ours polaire?
Alors en fait, l'ours polaire est un animal pragmatique, comme je vous le disais, qui cherche pas du tout les conflits. Et entre autres, moi je les ai observés au nord d'Alaska, sur une zone où il y a des baleines qui sont tuées par les Inuits et qui restent là échouées, et donc qui attirent énormément d'ours polaires et parfois un ou deux grizzlies, qui eux ont besoin d'aller hiberner. Donc ils ont besoin de faire des réserves, donc ils sont un petit peu tenaces, et donc ils vont pousser les ours polaires. En fait, les ours polaires, bah ils vont leur laisser la place, ils vont leur dire vas-y, la baleine, il y en a pour tout le monde, et donc les ours polaires vont partager quelque part avec les grizzlies, qui vont prendre un morceau de viande et s'en aller. Et les ours polaires vont revenir tranquillement se nourrir.
Alors ça c'est pour comment on se répartit la nourriture, mais il arrive aussi qu'ils s'accouplent, et ça donne quoi?
Oui, alors ça donne des pislis ou des gros lards, ça dépend, c'est jolies appellations. Actuellement, donc sont plutôt des ours bruns mâles qui ont tendance à aller vers le nord et donc à croiser des femelles en période de chaleur, c'est-à-dire vers fin mai, début juin, et donc là faire des petits hybrides. Ouais. Alors ça c'est toujours passé hein, à toute période de réchauffement où il y a toujours eu des rencontres entre les deux espèces. C'est pas très nouveau, on en parle beaucoup maintenant parce que on se dit bah l'ours polaire va disparaître, il va devenir un peu moins blanc, mais au contraire ça peut être aussi le moyen de résister au changement climatique.
Ouais. Mais c'est petit, hein, métis entre ours polaire, ours brun, ils sont viables et interféconds, c'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à se reproduire
c'est ça,
entre eux.
Tout à fait, parce que les deux espèces sont très très proches du point de vue génétique. Voilà, ça peut faire des hybrides, hein. Le premier qui a été vraiment identifié, c'était en 2006. Et puis, ils peuvent être beaucoup plus ours bruns que ours polaires, évidemment, comme les lois de la génétique le démontrent.
Alors, il n'y a pas vraiment, finalement, de barrière entre les ours bruns et les ours blancs, et votre passion aussi ne fait pas de distinction, parce que vous vous passionnez aussi pour les ours bruns. Et très prochainement, on pourra voir votre dernier documentaire, Les ours du Pacifique, sur la plateforme The Explorers. Ce sera à partir de début mai.
Tout à fait.
On y verra notamment une autre forme d'ours blanc qui est tout à fait particulier. Donc, on en dit quelques mots?
Oui, bien sûr. Alors là, c'est un ours noir, en fait, l'ours noir américain, dont il y a différentes phases de couleur, dont une phase blanche, je dirais jaune crème, qui vit exclusivement sur la côte ouest du Canada. Donc, une petite population, il y a 200 individus en tout et pour tout. Donc, un animal assez particulier. Très sociable d'ailleurs, qui admet assez bien la présence des humains et qui est très présent aussi dans les légendes et tout ça des peuples de la région.
Oui, parce qu'il y a un lien très fort entre les humains et les ours. Hein. Beaucoup de cultures considèrent l'ours comme une sorte de frère, de double humain.
Oui, alors ça, il faudrait deux ou trois émissions pour en parler, parce que c'est vraiment sur le sujet sur lequel je travaille actuellement. Il est vrai que depuis très très longtemps, depuis très loin, je dirais peut-être dans les premières relations entre l'homme et l'ours, eh bien on sent qu'il y a une espèce de fraternité. Peut-être que l'ours a appris énormément de choses à l'humain, et en particulier dans la consommation des végétaux, ou aussi dans la pharmacopée aussi, il y a des choses très très intéressantes.
Alors, il faudra revenir nous en parler. Merci Rémi Marion. Alors je rappelle votre documentaire Les ours du Pacifique, qui sera diffusé sur la plateforme The Explorers à partir de mai prochain. Ce soir sur Arte à 22h25, Arte rediffuse votre documentaire Fort comme un ours, sur les ours bruns cette fois. Puis je rappelle aussi votre ouvrage récent, Les bœufs musqués, qui s'intitule Ovibos, le survivant de l'Arctique, aux éditions Actes Sud. On va mettre toutes les références sur la page du Temps d'un Bivouac. Un grand merci Rémi, Marion.
Merci,
vous restez avec nous. Hein. Dans un instant, on part sur un chemin de randonnée mythique en Corse, le GR20, avec l'alpiniste et écrivain Fernando Ferreira.
Les bruits sourds d'un celui qu'il nous faut, prenons le temps qu'il faut pour laisser passer les cours d'eau jusqu'au dernier bateau. On trouvera la vie qu'il nous faut jusqu'au dernier bateau. Passer les cours d'eau jusqu'au dernier bateau. Passer les cours d'eau jusqu'au dernier bateau.
Les cours d'eau, c'était Pomme dans le temps d'un bivouac. Et merci à Muriel Pérez pour la programmation musicale.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Sur France Inter.
On y va tranquille. On continue, on regarde où on met les pieds.
Là, vous avez devant vous la mer Tyrrhénienne, la partie est. L'île de Monte Cristo, on la devine, encore.
Bon, on va avancer de manière un peu constante, histoire de se rapprocher de la descente. Il y a un petit passage technique à un moment donné vers le haut.
Attends, non, bouge pas, bouge pas, bouge pas.
Non, mais t'inquiète pas, t'es tenu, allez, sois tranquille.
Comme sur la table.
Regarde, ouais.
On n'est pas sur un GR comme un autre, là. Il est mythique. Qu'est-ce qui fait qu'il est mythique?
Ça reste quand même le trek de randonnée le plus dur d'Europe, parce que le terrain est minéral. Et quoi qu'il en soit, il ne permet pas de baisser la garde. Il faut être vigilant, être préparé, quoi.
Oh, elle était grande celle-là, tu peux pas la faire plus petite, la marche.
Nous voilà arrivés sur un des plus mythiques chemins de grande randonnée, le GR20 en Corse. Bonjour Fernando Ferrara.
Bonjour.
Vous êtes photographe, écrivain et alpiniste et vous venez de publier cette semaine GR20, Fralimonti, la légende corse aux éditions Glénat. On entendait à l'instant dans cet extrait de reportage sur France 2, ce guide corse dire que ce chemin de randonnée, le GR20, est le plus difficile d'Europe. Vous dites dans votre livre que pour beaucoup de Corses, hein, c'est le chemin le plus beau du monde, le plus difficile. Vous êtes d'accord, Fernando Ferrara, avec tous ces superlatifs?
Oui, c'est sûrement un des plus beaux du monde et un de ceux qui a qui est le plus charismatique, parce qu'il est un des rares quand même à avoir en même temps la haute montagne et la mer, et c'est quelque chose qu'on trouve uniquement qu'en Nouvelle-Zélande et au Chili, et ça donne une ambiance et quelque chose qui est endémique à la Corse, et c'est ce qui fait que ce sentier est rentré dans la légende.
Ouais, vous parlez d'une beauté sauvage, un sentiment d'isolement quand on parcourt ce chemin, hein. On a beau être sur une île qui n'est pas immense, on peut se sentir seul au monde quand on fait le GR20.
Alors, c'est le côté sauvage de la partie surtout nord, la haute montagne. On est tout de suite dans un monde très minéral, très loin de tout, et alors qu'on voit les villages en dessous, on voit la mer, etc. Mais on ce sentiment d'isolement, et même s'il y a beaucoup de monde sur le GR, surtout en saison, c'est la chose qui est le plus l'engagement. Il y a une forme d'engagement en GR20 qui vient du côté technique même, du circuit lui-même, puisqu'il faut marcher longtemps, les étapes sont assez longues, il y a beaucoup de dénivelé. Donc automatiquement, on est rejeté de loin de la civilisation, si je puis dire. Et cet sentiment d'isolement, d'aventure, voilà. On part à l'aventure sur le GR20, vraiment.
On n'est pas complètement seul au monde, parce qu'on n'est quand même pas les seuls sur le chemin, mais on a un sentiment d'aventure. Alors, le GR20 s'étend sur 180 km, hein, il part de Calanzana et il va jusqu'à Conca. La plupart des randonneurs le font dans ce sens, hein, du nord vers le sud. On traverse des paysages très différents tout au long de ce parcours. Donnez-nous un aperçu. On commence donc dans le nord, c'est très minéral, Fernando Ferrara.
Oui, alors on commence par le nord, c'est une sorte de règle qui veut qu'on commence par le nord, mais on pourrait commencer par le sud, d'ailleurs ça serait plus logique pour s'échauffer avant d'attaquer la haute montagne. Ouais. Donc quand on commence par le nord, on attaque directement par la haute montagne, c'est très rocailleux, on part du côté de la face nord du Chint surtout. Ensuite on descend dans des vallées comme le Gaule où on a des forêts de pins lariches avec des grandes cascades, etc. On passe les zones comme les Pozzines du lac de Nîmes où c'est très vert, on a ces espèces de green de golf avec des petites rivières qui coulent au milieu.
C'est ça, hein, les Pozzines, ce sont des pelouses épaisses gorgées d'eau, c'est très spécifique, les photos que vous en faites sont très belles.
Oui, oui, c'est très rare en plus, on n'en trouve pas souvent, ces espèces de tourbes. Et c'est d'origine à l'époque où il y avait des glaciers en Corse, il y a 25 000 ans. Et donc, c'est resté une espèce de petite zone où l'eau stagne. Et donc, il y a une pelouse, vraiment un green. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe une tondeuse tous les jours.
Ouais.
Et vous avez, par exemple, au lac de Nîmes, ou encore quelques chevaux sauvages qui sont là en permanence.
Alors, des chevaux sauvages, il n'y a plus vraiment de chevaux sauvages. Oui. En tout cas, c'est des chevaux à la retraite, un peu à l'abandon, qui se trouvent là et qui vivent une vie heureuse, apparemment.
Ah, ils ont l'air très très heureux. Ouais. Je sais pas où ils sont en hiver, c'est une question que je me suis toujours posée. Donc ils doivent descendre dans la vallée et quelqu'un doit s'en occuper. Mais en tout cas, pendant la saison de mai jusqu'à octobre, novembre, ils y sont toujours.
Ouais. Et alors si on avance encore un petit peu sur le parcours, il y a les fameuses aiguilles de Bavela.
Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau à la fin, ou au début, si on commence par le sud.
Ouais.
C'est vraiment le paysage endémique de la Corse avec ses grandes aiguilles de granit, ses pins lariches, et le Gervin passe au milieu, en particulier la variante alpine juste avant le col de Bavel. Et là, vous redescendez ensuite sur la mer. Mmh. Donc quand on arrive du sud, c'est vraiment tout de suite... Voilà, on prend une claque, et quand on arrive du nord, c'est la récompense avant de redescendre sur Conques et d'arriver à la mer.
Et vous dites, quel que soit le temps, hein, le brouillard, la tempête, la neige, le beau temps, ces aiguilles de Bavela, ça reste un spectacle incroyable.
C'est toujours beau.
Ouais.
Et on peut y aller à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quelle saison, par n'importe quel temps, c'est toujours beau.
Ouais. Ouais. Alors, le chemin est beau, ça ne fait aucun doute, mais il est aussi dangereux, et ça, vous le rappelez, hein, on pourrait avoir le sentiment que comme c'est en Corse, que c'est sur l'île de Beauté, que c'est une randonnée avec vue sur la mer, c'est facile. C'est vraiment un chemin très difficile, il faut s'y préparer, et un chemin qui peut être dangereux.
Alors, c'est un sentier où on peut pas aller comme ça, la fleur au fusil. Il faut être un peu sportif, faut s'entraîner, faut avoir l'habitude de marcher, en particulier de marcher avec un sac à dos, si possible le plus léger qu'on puisse avoir. Mais après, faut avoir un peu le pied sûr, parce que surtout dans la partie nord, la partie sud à partir de Vidzavon, c'est beaucoup plus roulant, ça ressemble aux Alpes, aux Préalpes un peu. Mais la partie nord est très caillouteuse, faut être vigilant. En début de saison, il peut y avoir de la neige, surtout dans la partie autour de la face nord du Chint et de la brèche du Capitel. Il y a des endroits où la glissade est interdite et le PGHM et les pompiers du secours en montagne font souvent des sorties, et même les deux tiers de leurs sorties ont lieu sur le GR20 pendant la saison entre juin et septembre. Donc, faut pas le prendre à la légère. C'est pas parce qu'on voit la mer que c'est une randonnée balnéaire.
À quelle saison vous conseillez de faire le GR20 si on se lance pour la première fois sur ce grand chemin de randonnée?
Alors, les refuges sont ouverts à partir du 1er juin jusqu'au 30 septembre. Début juin, en général, selon la neige qu'il y a eu en hiver, on peut avoir des névées pas facilement praticables jusqu'au 15-20 juin. Mais si on veut vraiment que le sentier soit sec, l'idéal pour une première fois, parce qu'en général, le GR20, quand on y vient une fois, on y revient plusieurs, c'est de le faire en septembre. Juillet-août, il y a les orages, il fait chaud, etc. Si on peut le faire en septembre, c'est la saison idéale.
Ouais. Alors, un dernier mot quand même, il faut le dire. On a en tête d'ailleurs ce film avec Benoît Poulvorde et puis les participants qui craquent. Ça met le corps à rude épreuve. Ça peut aussi mettre les relations à l'épreuve. Vous le dites dans votre livre, il y a des couples, des amitiés qui peuvent se déchirer sur ce chemin, mais aussi des amitiés et des amours qui peuvent naître.
Ah, tout à fait. Ça catalyse tout. Enfin, comme le sentier vous amène au bord de la fatigue, souvent pas extrême, mais une très grosse fatigue cumulée, tout lâche. Voilà. Donc, résultat, les gens font voir le meilleur ou le pire d'eux-mêmes.
Ou le pire d'eux-mêmes. Oui, ça peut être un révélateur.
Voilà. Et je trouve que le film Les Randonneurs donne tout à fait c'est tout à fait ce qui se passe sur le sentier.
Merci, Fernando Ferreira. Merci. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru cette semaine aux éditions Glénat, GR20 Fralimonti, la légende corse. Un grand merci à vous. Il y a tous les conseils, hein, dans le livre. Ouais. Pour partir. Le Merci. Temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast. Merci pour vos messages sur la page Facebook du Temps d'un bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures. Et dans un instant, on retrouve l'ami Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin. Il nous emmène aujourd'hui à la découverte du Nouveau Monde.